Je suis journaliste depuis, j'ose même plus calculer, je crois depuis pratiquement 20 ans. J'ai eu l'occasion d'interviewer des journalistes sur leur métier. C'est peut-être pour ça qu'on m'a sollicité pour répondre à cette question cruciale, qui est de savoir est-ce que la presse fait un travail d'information ou de désinformation. Alors je vous propose de procéder en cinq temps. J'accélérerai éventuellement pour profiter au maximum de la possibilité d'échanger avec vous, de recueillir vos questions, vos interrogations, vos doutes, vos témoignages, en espérant que parmi vous, il y ait des personnes qui lisent de temps à autre la presse d'une façon ou d'une autre. Alors je vous propose de garder à l'esprit, ce que je vais faire, c'est de répondre à la question de mon point de vue, à partir de mon expérience de journaliste. Est-ce que la presse et de l'ordre de l'information ou de la désinformation, je vais vous apporter mon témoignage personnel. Alors, en rappelant que c'est une question en fait très ancienne, en essayant de voir aussi ce qu'il en est aujourd'hui, pourquoi on se préoccupe autant aujourd'hui de la désinformation, du risque de désinformation. Si vous le voulez bien, je parlerai, en mettant des guillemets, parce que c'est pas français, je parlerai plus de malinformation, je mets des guillemets, j'expliquerai ce que j'entends par là, plutôt que de désinformation. J'essaierai de vous convaincre que malgré tout, malgré les grandes difficultés que représente l'exercice du métier de journaliste, j'ose dire qu'après celui de professeur, après celui de proviseur, etc., c'est le plus beau métier du monde. J'essaierai de vous montrer en quoi. Et puis, je me tournerai vers vous, si ce n'est déjà fait, pour essayer de savoir quel est votre point de vue et quelles sont aussi vos responsabilités dans le caractère insatisfaisant de l'information qu'on nous dispense aujourd'hui. Première question, premier aspect de mon propos, c'est de remettre les choses un peu en perspective. J'entends depuis quelque temps cette question, ces préoccupations autour d'un risque de désinformation sur n'importe quel sujet. La guerre qui se produit dans tel pays, comment la situation de tel ou tel quartier, etc. Or, je suis un peu étonné parce que, en fait, c'est une question qui est inhérente à l'histoire de la presse. Depuis que la presse existe, elle a été associée à un risque de désinformation. Et pour cause, en France, la presse, on dit, à juste titre d'ailleurs, qu'elle a été inventée par un certain Théophraste Renaudot. C'était au XVIIe siècle, médecin à Montpellier, et qui a lancé ce qu'on appelait une gazette, qui à l'époque ne faisait que 4 pages, ensuite elle fera un peu plus de pages, et on oublie de dire que ce qu'il avait inventé, c'était avec l'accord du pouvoir monarchique. Donc déjà, dès le début, la presse était sous la coupe, était contrôlée, était admise par le pouvoir. On peut passer à la suivante. Et en fait, il faut attendre très longtemps, avant que la presse parvienne à se frayer un chemin, à se créer un espace de liberté. Et il faut attendre le XVIIIe siècle pour que la liberté de la presse s'affirme, pour qu'on admette, pour que les pouvoirs admettent que la presse puisse faire son travail aussi librement que possible pour donner une information d'aussi grande qualité. Et ça commence plutôt en Angleterre, où la presse va s'affirmer comme un quatrième pouvoir, aux côtés du pouvoir gouvernemental, du pouvoir parlementaire et du pouvoir juridique. Aux États-Unis, également, on voit s'affirmer une presse à partir du XVIIIe siècle, et plus encore à partir du XIXe siècle, avec la naissance du journalisme moderne, avec la constitution de groupes de presse et le développement de la presse à grand tirage. Et c'est à ce moment-là que commencent à être mises au point des méthodes proprement journalistiques dans la manière de recueillir, de traiter et de hiérarchiser l'information. Un des moments clés, l'apothéose de cette longue histoire par laquelle la presse a arraché sa liberté et a montré son indépendance, c'est bien sûr l'affaire du Watergate. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une affaire fameuse qui est intervenue au début des années 70. Vous n'étiez pas conçu et à peine concevable, si vous me permettez cette expression. Et elle témoignait de la force, de la puissance de la presse en tout cas d'un titre de presse, le Washington Post, dont des journalistes sont parvenus à convaincre de la responsabilité du président de l'époque, Richard Nixon, dans comment des attitudes, des malversations, au point que, après investigation, ce président a été déchu. Et donc, c'est l'exemple type, l'illustration parfaite de l'indépendance de la presse, capable, grâce à un travail patient d'investigation, de montrer son indépendance. En France, on peut y aller, en France, cette conquête de la presse s'est aussi manifestée. Je veux dire, la presse est parvenue à s'imposer avec une liberté à partir de la Troisième République. Je ne sais pas, parfois on voit sur les murs mentionnés, de vieux murs mentionnés, une référence à la loi du 29 juillet 1881 qui accordait un régime particulièrement libéral pour la presse. Pour la première fois, à partir de cette loi, en France, la presse pouvait s'exprimer librement, diffuser des informations sans risquer de se faire réprimer. Alors, c'est une histoire avec des hauts et des bas, pour preuve la Première Guerre mondiale, où du fait de la guerre, les autorités, le pouvoir, le gouvernement soumet la presse à la censure. C'est ce qu'on appellera le bourrage de crâne, où on contraindra la presse à diffuser des informations pour remonter le moral des troupes et de l'opinion au moment de la guerre. Donc tout ça pour dire que cette conquête de la liberté de la presse ne s'est pas faite sans difficulté. Alors, ensuite, il y a eu des connivences récurrentes entre le monde de la presse et le monde politique, mais aussi le monde des affaires, qui a pu régulièrement faire douter de la qualité de l'information. C'est d'ailleurs en réaction à cette situation que les grandes écoles de journalisme ont été créées. Les grandes écoles de journalisme, où vous irez peut-être, je vous le souhaite, si vous voulez devenir journaliste, c'est-à-dire l'École supérieure de journalisme de Lille, créée en 1924, le Centre d'études journalistiques à Paris, créé quelques années plus tard, et puis enfin le Centre de formation des journalistes en 1946. Il y a bien d'autres écoles prestigieuses, mais ces écoles-là ont été créées en vue de former des journalistes aux méthodes journalistiques, d'enquête, d'investigation, mais surtout à la moralité. À la moralité, parce qu'à l'époque, le métier de journaliste n'était pas associé forcément à des pratiques très morales, du fait des connivences avec le monde politique et des affaires. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? On peut poursuivre. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas répondre simplement à cette question: est-ce que la presse fournit une information de qualité ou est-ce qu'elle nous désinforme? Pourquoi on ne peut pas répondre facilement à cette question ou trop rapidement? Et bien parce qu'il suffit d'aller dans une maison de la presse, de jeter un œil dans un kiosque. La presse est extrêmement diverse. Il y a toutes sortes de journaux. Il y a des journaux d'opinion, des journaux d'information, des journaux de loisirs, des journaux spécialisés. Et puis, donc des pratiques extrêmement diverses. Cependant, on peut quand même se faire une idée de l'état de l'opinion par rapport à cette presse grâce à un sondage qui est réalisé tous les ans depuis 1988 et qui permet de rendre compte de la vision que les Français ont de la presse quant à la qualité de l'information. Alors, je vous ai rassemblé ici quelques schémas, on va les visionner. Je ne sais pas si, malheureusement... Alors, si vous voulez, on va passer outre. Je reprendrai ces informations. Mais ces dernières années, ces sondages ont montré une défiance croissante des Français à l'égard de la presse. Et en considérant que l'information qui était donnée par la presse et les médias en général, c'est-à-dire la radio, la télévision et depuis peu le net, ne reflétait pas toujours la réalité, même si dans ces sondages, la radio et la presse s'en sortaient mieux que la télévision ou le net, c'est-à-dire que la presse donne le sentiment de donner une information d'un peu de meilleure qualité que la télévision ou le net, mais de moins bonne qualité par rapport à la radio. Alors, ce qui fait dire aux auteurs de cette enquête, de ce baromètre, un constat qui traduit la méfiance quant à l'indépendance des journalistes et par conséquent à l'objectivité de l'information qu'ils délivrent et commentent. Et puis les mêmes commentateurs expliquent que ceci peut s'expliquer par une impression de connivence que j'évoquais, qui est ancienne, entre les journalistes et les pouvoirs, est solidement ancrée dans l'opinion. Et c'est ce qui constitue un défi pour l'opinion, pour la profession, qui n'apparaît pas aussi crédible dans sa manière de rendre compte de la réalité des choses. Alors, pour autant, en tant que journaliste, mais on va pouvoir en discuter, moi je ne parlerai pas de désinformation. Je parlerai plutôt de mal-information. Ne cherchez pas dans le dictionnaire, ça n'existe pas, donc c'est plus de vous à moi. J'aurais dû mettre des guillemets, mais pour faire passer l'idée qu'il n'y a pas, hormis quelques exceptions, de la part des organes de presse, la volonté de vous tromper, de vous manipuler. Ce n'est pas aussi simple. En revanche, on peut admettre l'existence d'une mal-information, c'est-à-dire les conditions ne sont pas forcément réunies pour que la presse vous fournisse une information de qualité. Pourquoi ? Ben c'est ce que je vais explorer avec vous. Une des premières raisons qui fait que l'information donnée n'est pas a priori de bonne qualité, c'est ça c'est important. Pourquoi je ne parlerai pas de désinformation ? Parce que il y a un constat simple, en forme de paradoxe, c'est que d'un côté, on nous dit, on nous désinforme, on nous cache la vérité, on ne nous dit pas tout. Vous entendez ça régulièrement, ici et là. Mais d'un autre côté, force est d'admettre que tôt ou tard, on finit par tout savoir. Enfin, tout se sait. On est dans des sociétés particulièrement transparentes, où des secrets sont finalement révélés. Voyez ce qui se passe avec Wikileaks. Vous avez entendu parler de cette controverse avec des échanges entre diplomates qui ont été révélés au grand jour et qui nous donnent à voir une réalité qu'on ignorait, qu'on pouvait l'imaginer, mais qu'on ne nous l'avait jamais exprimé, expliqué, démontré de cette façon. Alors certes, des médias participent d'un travail de propagande, s'inscrivent dans une démarche de militance et donc ne cherchent pas forcément l'objectivité. Mais en règle générale, je ne pense pas qu'on puisse dire que la presse fasse un travail de désinformation. Je pense que, d'ailleurs, en France en particulier, s'il y a des informations qui ne vous sont pas données, c'est en raison de la réglementation qui régit l'usage des archives. Il y a un certain nombre d'archives auxquelles on ne peut pas accéder avant un certain temps. C'est la loi qui dispose les choses ainsi. Ce n'est pas la faute de la presse, la faute des journalistes qui ne feraient pas leur travail. Donc pour ma part, je parlerai plus de mal-information, d'autant que en fait, il y a plusieurs garde-fous qui empêchent un travail de désinformation, c'est-à-dire de choses qui limitent la possibilité de nous désinformer. Alors, c'est quoi exactement ? Alors, je vais me rapprocher de l'écran pour... C'est en premier lieu... Non, rassurez-vous, on ne va pas revenir à la case départ. Voilà. Un peu plus loin encore. Voilà, merci. Le premier garde-fou qui limite les possibilités de désinformation, c'est la concurrence entre les médias. Imaginez un média qui disposerait d'une information et qui préférerait la garder pour lui, la masquer, la cacher, pour servir les intérêts d'un pouvoir quel qu'il soit. Eh bien, cette information ne manquerait pas tôt ou tard d'être divulguée par un autre média, Donc il a tout intérêt, lui, à la divulguer. Un autre garde-fou qu'on observe depuis quelque temps, c'est la création, l'apparition de médias alternatifs, notamment dans le net, sur le net, ou même dans la presse papier, et qui se propose de donner une autre information par rapport à celle des médias classiques. Et puis, il y a les nouvelles perspectives offertes par Internet qui permettent d'accéder à des informations. Alors, on verra aussi qu'il y a des effets pervers liés à Internet, que Internet permet aussi la circulation des rumeurs, de mauvaises informations. Mais ça offre de nouvelles perspectives. Je pense, par exemple, à ces blogs d'information qui sont créés par des journalistes tout en travaillant avec d'autres titres de presse ou d'autres médias. Alors, pourquoi mal information plutôt que des informations? Alors, parce que par ailleurs, force est aussi de reconnaître que même si les Français ou dans d'autres pays, les gens lisent moins la presse, ils sont de plus en plus exigeants. Parce qu'ils voyagent. Pour ma part, j'ai, de par mon activité de journaliste, eu l'occasion de voyager à travers le monde et j'avoue avoir été plusieurs fois troublé par le décalage entre ce que je pouvais voir sur le terrain, au Liban, où je suis allé, en Iran, où je suis allé, en Syrie, en Chine, et puis ce qui nous était donné à voir dans les médias. Alors, je ne dis pas que les médias nous trompaient, donnaient à voir une fausse réalité des choses, mais je percevais un décalage. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir sur le terrain, c'est vrai, c'est pas tellement ce que l'on peut connaître de la réalité à travers la presse. Alors, parce que la presse essaye aussi de donner une information générale, une information politique, économique, à partir de données statistiques, etc. Donc une vision un peu théorique des choses. Et forcément, lorsque vous êtes sur le terrain, vous revoyez les choses de votre point de vue, à travers vos échanges avec les gens, et ça donne à voir une autre chose de la réalité. Et pour ma part, pour prendre l'exemple de l'Iran, où plus d'une fois on m'avait dissuadé d'aller, pensant que j'allais être agressé, pris en otage, etc., j'ai pu découvrir, en fait, une société extrêmement riche, avec, c'est vrai, un régime autoritaire qui limite considérablement les libertés et en même temps, une société très vivante avec des gens qui essayent de s'informer de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et petite anecdote, ça va vous faire sourire, mais qui est quand même significative. Quand je suis allé en Iran, quand je suis allé au Liban, la question qu'on me posait, c'est comment allait l'équipe d'Auxerre, l'équipe de foot d'Auxerre. Tout ça, c'est une boutade, une anecdote, mais qui était significative du fait qu'on s'informe, on s'informe d'autant plus que la liberté est contrainte par ailleurs. Et donc souvent, c'est des sociétés extrêmement vivantes. Et même pendant la guerre, les sociétés restent vivantes. Les gens essayent de vivre, essayent de surmonter l'angoisse de la peur, les inquiétudes liées à la guerre, etc. Donc, effectivement, il y a un décalage qui fait que quand on voyage, y compris pour ses vacances, eh bien, on devient plus exigeant et plus méfiant. On prend plus de distance, on devient plus critique. C'est pour ça que la désinformation, elle rencontre vite ses limites. Et puis, il y a des lecteurs, ou même des gens ordinaires, qui finissent, grâce aux nouvelles technologies, leurs portables, leurs caméras numériques, par produire eux-mêmes de l'information. D'ailleurs, les médias, la télévision, parfois la radio, la presse, diffusent, reproduisent des photos, des clichés ou des reportages, entre guillemets, qui ont été réalisés par des gens qui étaient là au moment où s'est produit l'événement, où s'est produit un attentat ou un accident ou je ne sais quoi, etc. Et donc, vous voyez, c'est ce qui c'est, un rôle de plus en plus actif de la part des lecteurs ou des gens ordinaires dans la production de l'information. Ça va? Je ne suis pas trop confus? Alors, on poursuit. Alors, pourquoi je ne parlerai pas de désinformation? C'est en raison d'un autre paradoxe, c'est que quand on habite dans un pays comme la France, force est quand même d'admettre la facilité, la profusion d'informations dont on dispose en ouvrant son poste de radio, la télévision, la presse, en surfant sur le net, l'information vient à nous, on n'a pas d'effort à faire. Il y a cette, une extrême richesse, diversité. Et en même temps, ce sentiment d'être mal informé. C'est pour ça que je parle de paradoxe. L'information est partout, on n'a même plus besoin de faire d'efforts pour y parvenir. Et en même temps, sentiment que ce n'est pas si clair, que l'information qu'on nous donne n'est pas si satisfaisante que ça, si rigoureuse. Alors pourquoi ? Plusieurs raisons à ça, sur lesquelles je passe très vite en contrôlant le temps. D'abord parce que force est d'admettre que la presse, le monde de la presse, des journaux, est un monde fragilisé économiquement. Il est en concurrence avec d'autres médias plus réactifs. Figurez-vous que dans les années 80, il y avait des journaux qui publiaient plusieurs éditions au cours de la même journée, ce qui vous permettait de suivre un événement dans son évolution au cours de la journée. Maintenant, on se limite à une édition, parce que l'information continue est assurée par la radio, par la télévision, des chaînes spécialisées justement dans l'information continue. Fragiliser la presse l'est aussi, et ça c'est très important, gardez ça toujours à l'esprit, parce que produire une information pour vous éclairer, pour vous permettre de savoir ce qui se passe dans le monde, eh bien, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, et ça coûte de l'argent. Ça mobilise des journalistes, et des journalistes, eh bien, ça doit gagner leur vie, ils sont rémunérés, ils ont besoin de moyens techniques, etc. Et des journaux ont de moins en moins de ressources pour envoyer des journalistes sur le terrain, recueillir une information aussi brute que possible, qu'ils pourront ensuite traiter, vérifier, et puis hiérarchiser. Fragilisation de la presse. Le métier de journaliste est le plus beau métier après celui de professeur, de proviseur, mais c'est un métier qui est traversé comme tous les autres métiers par la crise. Et quelques chiffres, parmi les 33 000 titulaires de la carte de presse, eh bien 26 000 sont salariés, donc ça va plutôt bien pour eux. Oui, pardon. Ah, pigiste, très bien. Alors j'y vais. Il y a 5700 pigistes. Alors pigiste, c'est par exemple moi, qui suis rémunéré à la pige. C'est-à-dire je ne suis pas salarié. Je ne gagne pas un salaire tous les mois. Je suis rémunéré à chaque article que je fais. D'accord ? Et on appelle ça une pige. D'où le mot de pigiste. Et les pigistes ont aussi le droit d'avoir une carte de presse. D'accord ? Donc, pour certains, ça les met dans des situations très difficiles parce qu'ils doivent écrire beaucoup d'articles pour gagner leur vie. Et pour d'autres, c'est un choix de vie. C'est mon cas. Je préfère être pigiste parce que ça me donne beaucoup plus d'indépendance. Mais on pourra en reparler avec vos échanges. En tout cas, merci pour la question parce que souvent, effectivement, on parle de pigiste, mais on ne sait pas à quoi ça correspond exactement. Et puis, vous avez 1400 journalistes au chômage. Bon, on poursuit. Pourquoi des malinformations, parce que presse fragilisée, mais aussi sous la dépendance de la publicité, j'ai rapporté un chiffre. Alors, des fois, les chiffres sont tellement énormes qu'on ne voit pas du tout ce que ça signifie. Mais je vous le rapporte, c'est sur pratiquement les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés par la presse, 3,8 milliards, c'est-à-dire un tiers, sont réalisés grâce à la publicité. Voilà un chiffre qui vous donne quand même une idée de la dépendance de la presse par rapport à la publicité. Alors, quels sont les garde-fous que mettent les journaux pour éviter que les publicitaires fassent du chantage du genre « on accepte de passer une annonce chez vous, mais à condition que vous disiez du bien de nos produits ». Ça, c'est ce qu'on pourra voir dans nos échanges. Une presse sous dépendance de la publicité, de groupes industriels. C'est vrai qu'il y a de quoi s'interroger. Plusieurs de nos journaux en France sont la propriété de groupes industriels, notamment l'avionneur Dassault, qui est propriétaire de plusieurs journaux. dans quelle mesure on peut travailler, critiquer cet avionneur dans un article publié dans l'un des titres qu'il possède, c'est difficile, il faut bien l'admettre. Mais l'avionneur d'assaut n'est pas le seul à posséder des titres de presse. Merci. Lagardère, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, qui est propriétaire de plusieurs titres, Paris Match, Le Journal du Dimanche, La Provence, etc., de plusieurs dizaines de magazines. Et là, pareil, dans quelle mesure on peut critiquer la société Lagardère dans un journal qui est la propriété de Lagardère? C'est un vrai problème. Alors, qui est ancien, il y a des solutions qui ont été trouvées, on pourra y revenir tout à l'heure. Et puis il y a d'autres titres, je passe pour ne pas faire trop long. Alors, il y a des garde-fous à l'intérieur des titres de presse, et puis la loi, le législateur français a aussi prévu des garde-fous pour éviter que des industriels se retrouvent dans des situations trop dominantes à l'échelle de la presse prise dans son ensemble. Une presse fragilisée sous la dépendance d'industriels, de l'État, dans la mesure où beaucoup de journaux sont soutenus par l'État. Alors on peut se demander comment la presse peut prétendre être un quatrième pouvoir si sa survie dépend des subventions, des aides directes et indirectes accordées par l'État. Vous voyez un peu le problème. Alors cela dit, en fait, le véritable problème, c'est que les journaux ont pris l'habitude de recevoir ces aides, mais sans chercher à en tirer profit pour réformer, transformer leur manière de travailler. Et c'est à cela qu'ils se heurtent principalement, d'où la proposition d'un rapport qui a été publié récemment, mais je passe là-dessus. Alors, une presse, pourquoi elle inspire peu confiance, aussi peu confiance? Je viens d'avancer d'autres raisons. Alors, parce qu'il y a d'autres, il y en a d'autres, à commencer par le fait qu'un journaliste qui travaille pour un groupe de presse ou qui est sous la dépendance de la publicité, dont le titre est sous la dépendance de la publicité, il va prétendre être indépendant, et d'une certaine façon il aura raison. Mais force est d'admettre qu'il y a des mécanismes d'autocensure. Inconsciemment, on va éviter de critiquer le groupe de presse, le groupe industriel ou l'annonceur publicitaire. Et puis, fragiliser, en difficulté, la presse l'est aussi, parce que beaucoup d'institutions et de pouvoirs ont appris à composer avec la presse, ont appris à la manipuler, ont appris à faire avec. Je pense bien évidemment à l'armée, et vous avez peut-être, comme moi, en tête la manière dont, par exemple, au cours de la guerre en Irak, des journalistes ont été « embedded » en anglais, c'est-à-dire encadrés par les militaires pour suivre, couvrir les événements. Et là, c'est une vraie contradiction. Comment un journaliste peut-il prétendre faire son travail s'il est encadré de militaires qui lui indiquent ce qu'il doit voir, ce qu'il doit rapporter à l'opinion? Si les militaires l'empêchent d'aller dans des endroits qui révéleraient des choses un peu déplaisantes pour la force armée. Alors, ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Mais qui ne doit pas faire oublier le fait que des journalistes, des reporters de guerre, qui sont d'ailleurs, entre parenthèses, souvent des femmes. Ça, c'est un mystère pour moi. Il faudrait expliquer, analyser ça de près. Mais vous avez beaucoup de reporters de guerre. Donc, ils vont sur les terrains de guerre, dans les conflits. Je pense à Anniva, par exemple, qui était une illustre reporter de guerre. Et bien, ce sont souvent des femmes. Vous pouvez le voir aussi à la télévision. Souvent, dans les journaux télévisés, lorsqu'un reporter relate ce qui se passe sur un terrain d'opération, c'est souvent une femme. J'ai remarqué cette tendance de fond qui est assez intéressante. Alors, pourquoi aussi ce sentiment de malinformation? C'est en raison, comment aussi, je reviens là-dessus, je l'ai déjà évoqué, c'est le trop-plein d'informations. On nous donne beaucoup d'informations, on est noyé sous l'information. Résultat, On ne peut plus prendre de recul, on ne peut plus réfléchir. Et tout s'accélère. Un événement se passe, il retient l'attention des médias, un autre événement se passe, eh bien, on passe d'un événement à l'autre. Une information chasse l'autre. On n'a plus le temps de recevoir, de digérer l'information. D'où ce sentiment de mal-information. Oui, d'accord, il y a beaucoup d'informations, mais il y en a peut-être trop. Et le trop plein d'informations tue l'information. Elle nous vient à un rythme de plus en plus accéléré. Alors qu'autrefois, on avait le temps de la recevoir, de l'analyser, de la commenter avec ses amis, ses proches, etc. Maintenant, les événements se déroulent sans qu'on ait vraiment un suivi sur leur déroulement. Alors, pourquoi ce sentiment de malinformation ? Parce que trop d'informations, des informations qui viennent à un rythme trop accéléré, et sans hiérarchisation, vous pouvez en convenir avec moi, on met sur le même plan un fait divers, et par exemple, des troubles, une révolution, comme celle qui se produit dans un pays comme la Tunisie. On va, à certains moments, accorder le même temps, en tout cas dans les journaux télévisés, mais aussi dans les journaux de la presse écrite, le même volume à un fait divers qu'à un conflit dans le monde ou à un enjeu comme ce qui se passe actuellement en Haïti et qu'on a complètement oublié. C'est passé au second plan. Alors, un exemple inverse, c'est qu'il y a tellement d'informations que les médias, inversement, à contrario, vont avoir tendance à se focaliser sur quelques événements et à passer sous silence d'autres événements. Je pense par exemple à ce qui s'est produit lors de l'opération israélienne à Gaza en 2009 et qui a, à juste titre, focalisé l'attention des médias. Mais à tel point qu'on n'a pas parlé d'autres événements qui se sont déroulés au même moment. Par exemple, le conflit qui opposait les autorités du Sri Lanka au tigre tamoul et qui avait fait à peu près le même nombre de victimes. Un deuxième exemple de conflit extrêmement grave qui a été passé au second plan, dont on a peu parlé, c'est le conflit au Darfour. Le Darfour, c'est au Soudan. Et puis, qui a fait 2 millions de déplacés, environ 200 000 civils tués. C'est énorme. C'est énorme. Et pourtant, on en a très peu parlé. Très faible couverture médiatique. Parce que les médias n'ont pas forcément les moyens d'envoyer des reporters et parce que les médias ont tendance à focaliser sur les événements les plus proches géographiquement des lieux de vie des lecteurs. On passe aussi, je vais passer. Alors, par ailleurs, je poursuis, nous approchons de la fin. Il y a le sentiment que les médias ne fournissent pas une information avec le souci d'objectivité, mais au nom de principes moraux. Ils véhiculent des jugements dans leur manière de rendre compte de l'actualité, et ceci en contradiction avec le principe journalistique qui veut que l'information soit donnée avec le plus d'objectivité possible. Fondamentalement, les médias sont parfois éloignés des principes qui régissent le travail du journaliste. Le journaliste, c'est un métier qui consiste, parfois au péril de sa vie, à recueillir de l'information, à la recouper, à la confronter pour s'assurer qu'elle soit juste, et puis à la hiérarchiser. Toutes les informations ne se valent pas. Et le problème, c'est que ce travail qui est au cœur du métier du journaliste n'est plus fait aussi systématiquement qu'on pourrait l'espérer. Un exemple, la manière dont on traite des banlieues. Alors, je vais être très rapide. Ce qui me frappe, c'est que on va le faire non pas à partir d'un travail de terrain, s'il vous plaît, non pas à partir d'un travail de terrain, mais à partir de clichés. La banlieue, c'était lieu de violence, de précarité, de discrimination, et c'est au nom de ces clichés qu'on va réaliser des reportages. C'est pas vrai, tout à fait. On est d'accord. Sauf que, mais tu as bien fait de réagir, ce sont des clichés. Et on va réaliser des reportages au nom de ces clichés, avec l'idée de montrer que ces clichés sont vrais. Et on va construire le reportage en conséquence. Bien heureusement, il y a des journalistes qui veulent montrer la richesse des banlieues, leur diversité, montrer que s'il y a de la violence dans la banlieue, dans telle ou telle banlieue, il y en a dans tel autre quartier, il y en a partout, qu'il y a aussi des lieux de création, etc. Mais le problème, c'est qu'on va le faire avec le souci de démonter les stéréotypes et on va se contenter de prendre l'exact contre-pied. Je pense notamment, s'il vous plaît, au travail qui est fait par une revue que j'aime bien au demeurant, c'est Reporters d'Espoir. Je vous invite à consulter le site de Reporters d'Espoir qui existe aussi en format papier. C'est une revue qui a réagi contre une tendance des médias à donner une information qui met l'accent, qui privilégie les informations les plus dramatiques, les plus tristes, les plus alarmantes, alors que la réalité sociale revêt bien d'autres aspects. Et donc ce média a mis un point d'honneur à rendre compte de bonnes nouvelles. Mais à mon sens, si cette démarche est bien intentionnée, elle ne fait que prendre l'exact contre-pied de ce qu'elle dénonce. Et je pense, s'il vous plaît, je pense que le véritable travail du journaliste consiste à s'émanciper de ces clichés, qu'ils soient positifs ou négatifs, et d'aller sur le terrain. Et si vous avez le temps, et j'espère que vous l'aurez, je vous invite à lire un ouvrage d'une consoeur, Florence Aubenas, dont vous avez entendu parler au moment où elle a été prise en otage au Liban, et qui a fait une enquête que je trouve remarquable et qui me semble être l'archétype de ce que peut faire un journaliste, puisqu'elle a voulu savoir ce qu'était la vie quotidienne de gens ordinaires. Elle aurait pu demander à des chercheurs qui travaillent beaucoup sur ces questions-là. Elle aurait pu lire des livres et faire un travail à partir de ces lectures. Non, elle a préféré aller sur le terrain et se faire passer même pour une femme ordinaire en se mettant dans la peau d'une femme de ménage. Et pendant des mois, elle a travaillé, elle a essayé de comprendre ce qui se passait dans une ville comme Ouistreham, dans des quartiers pauvres, en se mettant à la place d'une femme, en jouant le rôle d'une femme de ménage. Et elle décrit de l'intérieur la vie d'une femme de ménage. Pour moi, ça relève d'un travail de journaliste, même si on peut s'interroger sur le fait de travestir son identité. Est-ce qu'un journaliste peut comme ça se faire passer pour une autre personne? On peut se poser la question. Mais au moins, il y a eu de sa part un vrai travail de terrain pour voir ce qu'il en était, loin des clichés, que ces clichés soient positifs ou négatifs. Alors, on va passer aussi, et à ce stade, j'aimerais quand même vous convaincre du fait que, malgré tout, malgré cette situation de malinformation, le journalisme est un métier quand même passionnant. D'abord, c'est un métier qui est fondé sur un savoir-faire que j'ai déjà évoqué et qui consiste à recueillir l'information, à ouvrir grandes les oreilles, ouvrir grands ses yeux pour recueillir l'information, la vérifier en allant à la rencontre des gens pour leur demander leur témoignage, des informations et, troisième temps du travail du journaliste, hiérarchiser. C'est un travail individuel et en même temps collectif. Généralement, un journaliste travaille dans ou avec une rédaction qui, justement, contribue à ce travail de hiérarchisation. C'est un métier qui œuvre au nom de l'objectivité, mais dans une certaine mesure. Parce que, et là je veux tordre le cou à une idée suivant laquelle un journaliste est forcément objectif. je vais vous surprendre, moi je n'irai pas jusque-là. Je ne peux pas prétendre que l'information que je vous donne, elle est objective. Elle peut être imparfaite, mais je vais m'employer à faire qu'elle soit aussi rigoureuse que possible. Et puis, si elle n'est pas si objective que ça, ça tient à une autre raison à laquelle moi je suis très attaché, c'est qu'une information, elle n'est pas désincarnée. Elle est diffusée, divulguée par une personne, et donc elle est aussi un point de vue. Quand je vais faire une enquête, un reportage, que je recueille des témoignages, je donne une information sur une réalité, mais de mon point de vue. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour les reportages télévisés. Souvent, on prétend que parce que ça a été montré à la télévision, c'est vrai. Mais même le travail du caméraman, et celui qui nous filme actuellement pourra en témoigner, c'est un travail de point de vue. C'est un point de vue. Il pose, au moyen de sa caméra, un point de vue sur la réalité. Et donc, ce qui nous est donné, même dans les médias qui nous paraissent les plus objectifs parce qu'audiovisuels, eh bien, est aussi une affaire de point de vue. D'où l'intérêt d'aller sur le terrain pour vérifier aussi par soi-même. C'est un métier passionnant parce qu'il y a plusieurs manières d'être journaliste. Journaliste d'information, journaliste littéraire, journaliste politique, reporter de guerre, que je ne suis pas. Moi, pour ma part, je me reconnais plus comme journaliste sociologue. J'aime bien quand il y a un enjeu dont on débat, aller à la rencontre des gens pour recueillir leurs témoignages, leurs points de vue, voir ce qui se fait sur le terrain. Ça, c'est ma manière de pratiquer le journalisme. Bref, le journalisme n'est pas une science, c'est pas une science rigoureuse, mais j'ose dire davantage un art et un métier au sens du travail de l'artisan. On travaille aussi rigoureusement que possible, mais parfois aussi on bricole en devant s'adapter à la réalité et avec les moyens dont on dispose. Et puis, c'est un métier passionnant parce qu'il y a de nouvelles perspectives. Certains ont dit « Internet va tuer le journalisme ». Non, Internet peut contribuer à réinventer, à renouveler les pratiques du journalisme, voire mieux, à démontrer le bien fondé des principes qui sont au cœur du métier du journaliste que j'évoquais tout à l'heure. Recueil de l'information, traitement, hiérarchisation, c'est des valeurs intemporelles qui durent, qui restent exactes, même du temps d'Internet. Alors, aujourd'hui, on a de nouveaux médias qui apparaissent sur le net. Vous allez voir, vous allez surfer si vous en avez le temps, aller du côté de Rue 89 ou de Mediapart. Ce sont des médias d'information sur le net et qui, pour l'un d'entre eux, par exemple, Rue 89, a accepté de travailler avec à construire de l'information avec des gens ordinaires. Par exemple, pour vous donner une idée, au moment de grève dans les transports, ils ont eu l'idée de demander à un gréviste de relater la manière dont il vivait cette grève au jour le jour. Et donc, le journaliste a décrit la situation au jour le jour et son carnet de bord a été publié sur le site. Pour autant, il n'est pas journaliste. Il n'est pas journaliste parce qu'il n'a pas forcément les compétences du journaliste, mais il a participé à la production de l'information. On peut passer. Alors, pour terminer, et j'espère ne pas avoir été trop long, un peu trop quand même, ça va ? Alors, je termine en me tournant vers vous. Vous pouvez dénoncer les journalistes qui feraient mal leur travail. Vous pouvez et vous le devez. Mais vous devez aussi vous interroger sur vos responsabilités, parce que vous en avez. D'abord, je constate que parfois, il y a des gens, des citoyens, qui ne veulent pas tout entendre, qui ne veulent pas tout savoir. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi vous acquiescez, vous abondez à ça. Mais effectivement, il y a des gens, ils ne veulent pas tout savoir. Et puis, on dispose de techniques toutes simples pour ne pas savoir. Lorsqu'il y a un reportage qui démontre quelque chose qui va à l'encontre de nos convictions, ben on va tourner, on va changer de chaîne, on va éviter de lire l'article, etc. Donc, la malinformation, elle est le fait de journalistes qui font mal leur travail, qui n'ont pas forcément la capacité de bien le faire, mais elle est aussi le fait des lecteurs, des citoyens. Alors, cependant, les gens ordinaires, les lecteurs, les citoyens peuvent contribuer à améliorer l'information, comme je l'évoquais tout à l'heure, en participant à sa production. Je vous ai donné un exemple, mais attention, il ne faut pas se faire passer pour autant pour un journaliste. Un journaliste, c'est un métier avec des savoir-faire, des méthodes qui s'apprennent dans le temps. Alors, comment le lecteur, le citoyen peut se montrer davantage responsable, faire évoluer les choses à son échelle? D'abord, en manifestant ses exigences à l'égard de la presse, en protestant, en s'indignant, pour reprendre le titre d'un petit ouvrage qui vient de paraître et qui a rencontré un très vif succès, en sollicitant ce qu'on appelle au sein des médias un médiateur. De plus en plus, des médias, des journaux, des radios, des chaînes de télévision ont un médiateur qui fait le lien entre la rédaction et le lectorat ou les spectateurs. Lorsque des spectateurs, des lecteurs, des auditeurs estiment que l'information n'a pas été de bonne qualité, ils peuvent protester en sollicitant ce qu'on appelle un médiateur ou plus exactement un ombudsman. C'est une pratique qui est venue des États-Unis et qui s'est diffusée en France. Il peut se montrer responsable en confrontant l'information qu'il a recueillie avec celle de ses collègues, de ses proches, de ses camarades de classe, bref, en en parlant autour de lui. Il peut essayer de prendre du recul en replaçant l'information dans sa profondeur historique. Parfois, s'informer de l'actualité, ça passe par une remise en perspective historique et donc par des lectures, des travaux d'historiens qui peuvent nous aider aussi à relativiser les choses, à relativiser le caractère nouveau d'une chose. Relativiser aussi la notion d'objectivité. Une information, une image n'est pas le reflet de la réalité, elle est l'expression d'un point de vue du journaliste sur cette réalité. Et puis, il peut participer, bon ça je l'ai dit, à la quête de l'information. Eh bien, on en terminera là. Est-ce que vous pouvez revenir? Voilà, je tenais quand même à vous manifester, à vous exprimer mon remerciement pour votre grande attention.